Là, vous m'entendez mieux ? Super. Bon, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de voir plein d'enfants dans notre église. Ça fait vraiment plaisir. Courage à Didier, hein, pour encadrer ces jeunes. Merci Didier, on est avec toi. Voilà. Alors, j'aimerais revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque la semaine dernière, j'ai apporté le message aussi. Et le Seigneur m'avait dit que je devais parler sur un sujet en particulier à partir du moment où j'aurais au moins deux dimanches devant moi. Et les choses ont fait que, dans l'organisation, voilà, j'ai eu ces deux dimanches. Donc je ne pouvais plus faire marche arrière, n'est-ce pas ? Parce que le thème n'est pas très facile. Et le thème est en effet la souffrance. Et donc là, dans la partie 2, j'ai marqué la souffrance pour ne pas entacher notre marche dans l'esprit. Alors, en début septembre, on a Jean-Luc qui nous a parlé de la marche dans l'esprit et l'importance de pouvoir remarcher dans l'esprit et comment on va remarcher dans l'esprit. Je pense que le lien, comment on va traiter la souffrance, a un lien particulier avec notre marche dans l'esprit. Pourquoi ? Tout simplement parce que la souffrance peut nous empêcher de marcher dans l'esprit. Or, on sait très bien que les apôtres ont souffert et pourtant leur marche dans l'esprit n'était pas entamée. Ah, c'est difficile, hein. C'est très difficile, mais je pense que c'est une des clés avant de pouvoir rentrer pleinement dans cette vie de l'esprit que le Seigneur nous promet pour cette église et pour toutes les églises du monde entier. Il faut que l'on sache, que l'on connaisse ce sujet de la souffrance et qu'on arrive à la traiter. Ok. Déjà, je voudrais vous demander pardon pour une chose, c'est que qui était là la semaine dernière ? Ok. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je demande pardon. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une erreur. Je pense que quand on prend la parole, lorsque voilà, on a des responsabilités dans l'Église, c'est important de pouvoir montrer à l'Assemblée qu'on est faillible et que du coup, on doit demander pardon pour les erreurs qu'on commet. Donc, cette erreur que j'ai commise, elle est liée à un manque d'outils. Ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai partagé un outil par rapport à la lecture de la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi cet outil ? Merci. Qu'est-ce qu'il a dit ? Merci. Les lunettes, ça fait plaisir. Alors, tu peux... Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui dois le faire. Les lunettes, en effet. Lorsqu'on lit la Bible, comme ça, voilà. Donc, rectification, j'ai fait une erreur. Les lunettes. Quand on lit la Bible, on peut lire avec soit les lunettes noires, soit avec les lunettes rose cœur d'amour, ok ? C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on lit un verset de la Bible, ah, ça nous met une flèche dans le cœur, mais parce que on ne comprend pas bien l'ensemble de la Bible, ok ? Il faut toujours lire un passage de la Bible en ayant en arrière-plan le fait que Dieu est amour, toujours, toujours, toujours. Sinon, on risque de souffrir et d'utiliser les lunettes noires. C'est exactement ce que Satan veut qu'on fasse. Les lunettes d'amour nous donnera toujours une porte de sortie, même si ça nous fait mal. Dieu est amour, donc c'est pour notre bien. Ok. Et je me suis trompée par rapport au fait que je vous ai dit à la question pourquoi Dieu nous a fait pourquoi il nous a créé, tout simplement. On a étudié Genèse. Et pourquoi il nous a créé? Et j'ai utilisé un verset. Ok? Et j'ai utilisé l'outil de la fléchette. L'outil de la fléchette, c'est-à-dire, je prends un verset de la Bible, boum, et ça me fait ma réponse. Et c'est totalement possible. C'est totalement possible. D'ailleurs, pour d'autres questions, j'ai utilisé la méthode de la fléchette. Mais il y a une autre méthode. La méthode du filet. Ok ? La méthode du filet, c'est que pour avoir une réponse à notre question, il va falloir utiliser un chapitre entier, ou alors un livre entier de la Bible, ou éventuellement la Bible en entier. Et c'est souvent une erreur que nous chrétiens nous faisons. Nous prenons, et que j'ai fait la semaine dernière, nous prenons un verset et nous en sortons une vérité. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours la vérité. Et donc du coup, je lisais la Bible, vraiment, je disais, ah, le moment où Dieu dit, j'ai placé l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde, Je l'ai vraiment entendu, malgré la tradition qui nous dit bien que c'est l'homme qui cultive le jardin, que c'est Dieu qui cultive l'homme. Et je trouvais ça tellement magnifique, parce que je disais, ça montre tellement l'amour que Dieu a pour nous. Or, dans l'hébreu, le texte en hébreu, je suis sortie de là la semaine dernière et je me suis dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai contacté un pasteur de l'église de Grenoble qui est un spécialiste de l'hébreu et je lui dis, Pierre, j'ai besoin d'avoir la réponse là-dessus. Est-ce que le texte en hébreu dit bien que c'est le jardin ou c'est l'homme? Est-ce que c'est Dieu qui cultive l'homme dans le jardin ou c'est Dieu qui a demandé que l'homme cultive le jardin? Et là, il me dit, c'est le jardin, Ève, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est de l'hébreu, c'est du féminin. Je ne vais pas vous faire un cours de grammaire, ça ne va pas forcément vous intéresser. Bien. Tout ça pour vous dire que ça ne change pas le fait que Dieu nous aime. Et que pour avoir la réponse de pourquoi Dieu nous a créés, il faut lire Genèse 1 et 2 en entier. Il fallait que je prenne l'outil du filet et pas de la fléchette. Et je pense que si je dois vous le dire aujourd'hui, c'est parce que vous-même, eh bien, vous devez faire attention lorsque vous lisez la Bible. Est-ce que je dois prendre la fléchette ou est-ce que je dois prendre le filet? Et donc, du coup, la réponse, c'est clair. En Genèse 1, il nous a créés comme une œuvre d'art. Nous sommes une œuvre d'art. Et lorsqu'on demande à un artiste « Pourquoi tu crées ?» il n'y a pas forcément de réponse. Il n'y a pas forcément de raison. Ça sort du cœur de l'homme. Et c'est juste bon. Pourquoi Dieu nous a créés ? Parce que c'est bon. Et que ça sort de son cœur. La deuxième réponse, c'est en Genèse 2, Dieu est un être relationnel en lui-même. Et donc, il veut la relation avec nous. Et il veut que nous ayons une relation avec sa création. La rectification est faite. Est-ce que vous me pardonnez? Ah, amen. Ouf. Alors, donc les deux outils, les lunettes et la fléchette, le filet. Vous l'avez. Je dois rappeler donc ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière avait pour but de répondre à la question « D'où vient la souffrance ? » Quelle est la source de la souffrance ? Parce que à cette question, nous pouvons donner une identité à Dieu qui est fausse. C'est-à-dire que nous pouvons dire que Dieu veut que l'on souffre. La souffrance vient de Dieu. Et ces choses-là. Par ces trois questions, quelles étaient les trois questions qu'on s'est posées la semaine dernière et que tout le monde se pose une fois dans la vie? Qu'on dit comme ça, même les gens du monde le disent. Mais qu'est-ce qui fout le bon Dieu? Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Sous-entendu, c'est Dieu qui nous punit. Voilà. Donc on a été voir dans la Bible si c'était vrai. Et on a conclu que Dieu peut accepter la souffrance, mais pour Ève et Adam, ce n'est pas une punition. S'il nous a éloignés du jardin d'Éden, c'est pour nous empêcher de vivre une mort éternelle parce que nous avions accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie nous rend éternel. Nous connaissions maintenant le bien et le mal, alors il y avait danger pour nous. Donc il ne nous a pas éloignés de lui, il nous a éloignés de l'arbre de vie. Et c'est tout la différence. Ok ? Cela veut dire qu'il veut continuer à être en relation avec nous. La deuxième question, c'était... Mais qu'est-ce qu'il fout le bon Dieu? C'est-à-dire, en gros, Dieu nous voit souffrir, voilà, et puis il s'en fout. Il s'en fout totalement. Et ça, c'est faux aussi. Et la troisième chose qu'on a... Je ne vais pas tout vous refaire l'exposé, sinon on ne va pas pouvoir y arriver. Et la troisième question, c'était... Si Dieu existait, la souffrance ne serait pas de ce monde. Hein, on l'entend ça. On l'entend. Eh bien, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on a vu la semaine dernière que la souffrance vient profondément de la connaissance du bien et du mal. Et nous n'étions pas destinés à vivre ça. Nous étions destinés à vivre de l'arbre de vie, c'est-à-dire avec Jésus, dans un environnement magnifique. Or, la souffrance vient donc du mal, et le mal existait avant même notre création. Donc nous ne pouvons pas dire cela. Bien, sur cette base, la base, le socle, c'est que Dieu nous aime. Et que la souffrance, Dieu ne la veut pas pour nous. Ok ? Mais il a dit, ok, si tu veux connaître le bien et le mal, tu vas connaître. Et nous sommes toujours héritiers de cela. Tu veux connaître le bien et le mal ? Ok, vas-y. Moi, je te dis de ne plus connaître le bien et le mal, de choisir la vie, Deutéronome 30. Et il va dire ça tout le long de la Bible. Bien, après une grande introduction, désolé pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous allons voir aujourd'hui la question « Comment traverser la souffrance ?» Ouais, donc là, là, c'était les réponses de la semaine dernière. Tu peux appuyer, s'il te plaît. Vas-y, continue. Donc là, c'est toute la démonstration, la conclusion de la semaine dernière. Voilà. Nous, aujourd'hui, on va voir, comment traverser la souffrance. C'est ça qui est important aussi, hein. Parce que là, sinon, c'est de la belle théologie. Mais nous, en attendant, on souffre. Alors, comment on fait ? Il faut que je vous explique comment Dieu m'a parlé par rapport à ce thème et comment il m'a mis à cœur de vouloir vous en parler. Pour cela, j'ai entendu une chanson des Imagine Dragons. Est-ce que quelqu'un connaît les Imagine Dragons ici ? Il n'y a que Mounir ? Vous ne connaissez pas les Imagine Dragons ? Ah, merci. Merci, d'accord. Ok. Et je vais vous montrer, pas le clip, mais je vais vous faire écouter la musique et ce qu'elle dit. Et mon oreille, alors je parle un petit peu anglais, c'est sûr, mais j'avais entendu des centaines de fois cette chanson. Mais je n'avais jamais entendu réellement le refrain. J'ai dit à Mounir, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Allez, on écoute ensemble. Vous arrivez à suivre, tant mieux. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my Job, ça. Job qui dit, attendez là, arrêtez de me faire la morale. Je souffre, ok? I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Incroyable. Le refrain, douleur, souffrance. Tu as fait de moi un croyant, un croyant. C'est une chanson profane, ok ? Et on a souvent entendu ça dans l'église. Ta souffrance te sert à te faire grandir. J'avoue, quand on me disait ça, j'appréciais pas trop. Parce que ça me donnait l'image d'un Dieu qui était ok avec la souffrance. Or, ce n'est pas la définition que j'ai de Dieu. Pour moi, Dieu est amour. Comment Dieu qui est amour peut nous laisser souffrir ? Et en quoi cette souffrance pourrait nous faire grandir ? Ça fait mal de se dire ça. N'oublions pas que Dieu ne veut pas la souffrance, mais qu'il nous met face à nos choix. Et notre choix, il y a très très longtemps, c'était de choisir le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal, plutôt que de la connaissance de la vie. il n'enlèvera pas cela. Ok. Alors, je me suis posé la question, la souffrance peut-elle faire de nous des croyants ? Aussi étonnant que ça puisse l'être. Aussi dérangeant que ça puisse l'être. Ok ? Hop. C'est important cette question. La souffrance peut-elle faire de nous des croyants ou de meilleurs croyants ? Pour ceux qui ont la foi, pour ceux, vous avez tous la foi ici ? Oh, ça va, ok. Alors, on va voir ce qui s'est passé avec Ève. Juste après, on a vu Genèse 1, on a vu Genèse 2, on a vu Genèse 3. Maintenant, on va aller dans Genèse 4. Ok ? Comment je réexplique le contexte ? Ève a fait une bêtise. Elle l'avoue à Dieu. Dieu a dit, si c'est ça, tu vas accoucher dans la souffrance. Et tu vas connaître ce qu'est le bien et le mal. Bing. Dur quand on lit ça. Juste après en Genèse 4, qu'est-ce qu'on lit ? Genèse 4, 1. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Waouh ! Là où Dieu lui a dit, tu vas accoucher vraiment dans la douleur, juste après, on a quoi comme verset ? Un verset qui explique que Ève est reconnaissante envers Dieu d'avoir accouché dans la douleur. Vous comprenez quelque chose, vous ? C'est compliqué, hein ? Pourquoi Ève réagit comme ça ? Elle a accepté que Dieu avait raison. Elle a accepté qu'elle a commis une erreur. Et elle a accepté que forcément ça a des conséquences. Ses choix ont des conséquences. Ok ? Mais est-ce que cela a entaché le lien que Ève avait avec Dieu ? Pas du tout. Au contraire. J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Waouh ! Comme s'il y avait... Elle n'en voulait absolument pas à Dieu. Alors elle a une foi toujours présente. Et même elle a une foi plus grande encore. Malgré le fait qu'elle souffre, elle a une foi plus grande. Ève a donné raison à Dieu. Cela prouve que même lorsque nous souffrons, notre lien à Dieu peut rester intact. Intact. Ça, c'est très très important. Très très important. Alors on va voir la suite de Genèse 4, et on va voir un autre personnage. Comment cette personne-là a réagi à la souffrance. On peut dire que là, nous avons une réaction positive. Et après, nous avons Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn ? C'est moins folichon. Et ouais. Alors, on va lire ensemble. Je vais vous lire parce que là, c'est très petit. Si vous avez une Bible, vous pouvez prendre Genèse 4, versets 2 à 16. Ouais, je sais. C'est toujours ça avec moi, hein. Je vous fais manger des gros passages de la Bible. On y va ? Oui ? Oui, on y va. Elle enfanta encore son frère Abel. On parle de Ève. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Vous voyez la graduation du mal. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tua point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Sacrée histoire, hein ? On sent toute la douleur, la pain, la souffrance dans l'expérience de Caïn. Caïn n'a pas fait semblant, il a vraiment souffert. Hein. Alors, on va utiliser un de mes outils. Vous êtes prêts ? Lunettes noires. Est-ce que tu peux revenir avant, s'il te plaît ? Ok. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Excusez-moi, mais la première fois que je l'ai lu, j'étais plutôt d'accord avec Caïn. Je sais pas vous, mais il apporte, il fait un cadeau à Dieu, tout ce qu'il a gagné, son petit frère aussi. Et lui, il a le regard favorable, mais pas Caïn. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Soyons un peu honnêtes. Hein ? Là, je fais les lunettes noires, hein ? Ok ? Non, c'est pas juste. Si je lis la Bible comme ça, je suis désolée, c'est pas juste. Et du coup, je comprends pas Dieu, et du coup, je m'éloigne de Dieu. Parce que j'ai pas envie de suivre un Dieu comme ça. Ok. Alors du coup, quand ça va pas, je sais que le texte est en hébreu, qu'est-ce que je fais ? Allô, Pierre ? Ou je vais sur le Top Chrétien, je vais voir la traduction des mots, et j'essaye de comprendre. Il y a même les commentateurs. Donc je suis allée voir le commentateur sur le Top Chrétien, ça me convenait pas trop. Alors j'ai fait allô, Pierre. Je fais allô, Pierre, je trouve ça quand même injuste. Je trouve ça super injuste, là. Pourquoi Caïn, il n'avait pas le regard favorable de Dieu ? Il fait, « Ève, lis mieux. » Alors, on va lire mieux. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Ça parle des prémices. Et ça montre, juste dans ce mot-là, « premier-né », la relation qu'Abel avait avec Dieu, que Caïn n'avait pas. C'est quoi les prémices ? On imagine, Dieu vous a béni, vous commencez un nouveau travail, ok ? Le premier salaire que vous avez, tiens Seigneur, c'est pour toi. Allez, je donne à l'association un tel, je donne à l'église un tel, je donne à l'église un tel, je vais aider mon voisin parce qu'il est dans la panade. Tout votre premier salaire part pour bénir les autres et pour bénir l'Éternel. C'est ce qui s'est passé avec Abel. Abel aimait Dieu de tout son cœur, une confiance telle que son premier salaire, ok, de toute façon c'est pas grave, il y en a un deuxième qui suit derrière. Une confiance en l'Éternel incroyable. C'est dur, hein ? Je vous l'ai dit, moi je l'ai pas encore fait ça. Hein, je l'avoue. Tandis que Caïn donne un peu des fruits qu'il a eus. Voyez, vous comprenez la différence ? Et forcément, Dieu dit à Caïn, je vais enlever ça parce que j'ai l'air ridicule quand même. Dieu dit à Caïn, mais bien sûr que j'approuve ce que Abel fait envers moi. Bien sûr que j'approuve que Abel ait confiance en moi. Bien sûr que j'approuve que son geste est waouh ! Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime, Caïn, mais fais attention, le regard que tu as sur la jalousie qui est entre moi et Abel va causer ta perte. Tu es jaloux. Tu as soif de justice. Tu dis qu'il y a injustice, mais je suis juste en train de dire à mon fils Abel que je suis fière de lui. Et toi, du coup, tu te sens amoindri. Mais on est tous en chemin. Quel regard nous portons les uns sur les autres? Elle, lui. Et moi, je me sens inférieure. Non, Dieu ne veut pas qu'on pense comme ça. Pas du tout. Ce qu'il veut, c'est que l'on progresse petit à petit, sans se comparer à l'autre. Ne nous comparons pas les uns aux autres, c'est une erreur. Alors qu'est-ce que fait Dieu là? Dieu, tout simplement, il pointe du doigt un lieu bien précis qui est le cœur de Caïn. Regarde ton cœur, Caïn. Je mets le doigt là, tu vois, ça fait mal. Oui, il se peut que lorsque Dieu pointe notre cœur, un endroit qui doit évoluer, qui doit changer, ça fasse très mal. Ça fasse très mal. Et on a le droit de réagir de deux manières, de réagir mal ou de bien réagir. Et Caïn a décidé de mal réagir. Alors j'aimerais venir vraiment sur ce lieu-là du cœur. Alors l'utilinette en a fait. Dieu pointe du doigt ce qui réside dans le cœur de Caïn. L'importance du cœur dans la souffrance, c'est très 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 important. Le lieu de la présence, de la rencontre avec Dieu, ça c'est important. Dans la Bible, au premier temps, avant la chute, le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est quoi? C'est où? Où est-ce qu'on rencontre Dieu avant la chute? Merci, dans le jardin d'Éden. Donc avant la chute, dans l'Ancien Testament et après Jésus, dans le jardin d'Éden. Dans l'Ancien Testament, c'est au temple. Ok? Après Jésus, c'est le cœur. Mais attention, dans l'Ancien Testament, il y a aussi le cœur de l'homme. Ok? L'Ancien Testament a pour but de préparer le Nouveau Testament, l'arrivée de Jésus. Donc le cœur de l'homme est toujours important. En Proverbe 4, 23, on a plus que toute autre chose, prends soin de ton cœur. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire dans cette souffrance que l'on traverse. Je ne sais pas si vous traversez un moment de souffrance ou si vous avez autour de vous des personnes qui sont dans la souffrance. Il faut prendre soin de votre cœur. Ok? Alors, en conclusion, je dirais, est-ce que la souffrance peut faire de nous des croyants ou de meilleurs croyants, comme cette chanson le dit? Oui. Si. Et seulement si. Et j'appuie sur ça. Si et seulement si Dieu pointe une réalité de notre cœur. Ok? Si et seulement si. Et tout dépend de notre réaction. Ève réagit bien, Caïn réagit mal. Et le but, c'est un cœur qui ressemble de plus en plus au cœur de Dieu. Alors, que peut produire la souffrance pour ceux qui ne croient pas? L'histoire de Paul, un changement de regard. Boum, Paul ne croyait pas en Jésus. Au contraire, il est persécuté, il est tué. Jésus est venu, bam, changement de regard. Mais il a souffert, il est aveugle. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais cette rencontre lui a fait plutôt mal. Il a dû passer par la souffrance pour comprendre qui était Jésus. Je ne vous souhaite pas, et je ne souhaite pas aux personnes qui sont autour de vous, cette expérience, à mon avis, c'était pas facile à vivre. Et B, ceux qui continuent de ne pas croire, et alors il y a un désespoir sans fin. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être à la souffrance. On souffre et puis c'est tout. Et donc il peut y avoir une décadence petit à petit, où on va se rattacher à des choses comme l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, à toutes sortes de choses qui vont faire qu'on va essayer de tenir bon jusqu'à pourquoi pas se suicider. Vivre la souffrance sans Dieu, c'est juste horrible. Alors, comment traverser la souffrance? Alors là, je vais encore vous demander pardon, parce que là, je vais parler d'un outil. Et on va entrer vraiment dans comment on traverse la souffrance, avec des outils bien précis. Quand le Seigneur m'a parlé, franchement, c'était à m'arracher les cheveux pour faire ce prêche. Il m'a dit, Ève, dis juste ce que je te dis. Faire l'expérience de marcher par l'esprit. Dis ce que je te dis. Oh, oui, mais j'ai pas trop confiance en ça. Ève, tu vas apprendre à faire confiance et à me faire confiance. Et tu vas dire ce que je te dis. Bien. Il m'a donné 4 lettres pour dire comment on va traverser la souffrance. Et 7 lettres, ça fait un mot dont je ne suis pas forcément fière de vous le montrer maintenant, qui me fait peut-être légèrement sourire, mais qui sera un moyen mnémotechnique imparable. Vous vous en souviendrez toute votre vie, je pense, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui prennent la parole et puis qui vous montrent cette méthode. Alors cette méthode, qui vous la montre, oui, mais qui s'appelle comme ça, c'est pas top, mais c'est comme ça. La méthode CACA qui fait, voilà, je m'excuse à l'avance, j'espère que du coup vous en souviendrez. Ok. Le premier A, vous avez vu, je n'ai pas dit le mot, pour rester correct. Constat des faits, communiquer. Il ne sert à rien de jouer un rôle. Il ne sert à rien de dire oui, je suis croyante, non, je n'en veux pas à Dieu. Ça sert à rien. Il faut dire et exprimer vos émotions. Mes émotions, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est laisser les coups de gueule, j'ai envie de dire, les coups de cri, les coups de « Ouah, j'en peux plus !» Il faut que ça sorte. Et il faut exprimer ses sentiments. Ok ? Qu'ils soient bons ou mauvais, on fera le tri après. Mais d'abord, on laisse la souffrance sortir. Ok ? C'est très important, c'est la première phase. Une fois qu'on a fait cette première phase, on va commencer à trier. Ok ? Et on va regarder ce qui est vrai de ce qui est faux dans ce qu'on dit. Donc je ressens cela, 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 et après je trie. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit là ? Est-ce que c'est faux ? La deuxième, c'est analyse des faits. Donc on vient de dire, je souffre pour telle et telle raison. J'en veux à Dieu pour telle et telle raison. Ok, on va analyser ce que tu dis. Dans l'analyse des faits, et là j'insiste énormément sur cela, il faut que l'on discerne la première chose. Est-ce que la souffrance est le résultat juste de mes choix ? C'est-à-dire, j'ai fait une erreur. J'ai commis une erreur. Et il faut savoir regarder les choses en face. Ça va vous libérer, je vous le promets. Est-ce que la souffrance vient du fait que Dieu pointe du doigt une réalité de mon cœur ? Donc, c'est à l'initiative de Dieu. Comme on a vu juste auparavant. Et j'ai pris le temps vraiment de développer ce point-là, pour pas que quand vous sortiez d'ici, vous disiez « Dieu est méchant ». J'espère que vous l'avez compris. La souffrance est le résultat d'un fait extérieur. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Et je subis. Ça, c'est dur. Très dur. Là, peut-être vous pensez à quelque chose dans votre tête, un truc que vous avez traversé dans votre vie ou que vous traversez maintenant. Vous pouvez faire l'exercice tout de suite. Vous êtes en 1, 2 ou 3. Dans quelle case ? On objective les choses. C'est important. Ensuite, on passe à la compréhension des faits. Une fois qu'on a compris ce qui s'est passé et pourquoi on en arrive à ce point-là, on comprend. Et le fait de comprendre nous fait passer par l'acceptation. On accepte ce qui se passe et on passe à l'action. C'est-à-dire que forcément, Dieu nous donnera toujours une porte de sortie. Toujours. Et la dernière étape, c'est l'apprentissage. Avec le temps qui passe, en ayant passé par toutes ces étapes, on finit par apprendre quelque chose. Et là, encore une fois, vous pouvez relire vos expériences et vous dire « Moi, c'est vrai que j'ai appris ça. » Alors, si on doit accompagner une personne qui souffre, eh bien, on va se poser la question « Où en est-elle dans sa démarche ? » Est-ce qu'elle est dans le premier C, le premier A, le deuxième C, le deuxième A ? Ok ? Alors, si la souffrance est le résultat de mes choix, quelle est la porte de sortie ? La repentance. Ah, ça, c'est quelque chose qui m'énervait aussi. Hein. Dans les églises, il faut toujours demander pardon. Mais oui, si, si. La repentance est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que le but de la repentance, c'est de nous soulager, de nous libérer, et pas de nous pointer du doigt. Ok ? Donc, on va voir Dieu, et on va lui dire, « Ah, Seigneur Jésus, je suis désolée, j'ai fait une bêtise. Je te demande pardon. Est-ce que tu peux rattraper les choses ? Relève-toi. Une fois que tu as demandé pardon, relève-toi et recommence, repars. Alors, attention de ne pas tomber dans la peur de faire des choix. J'ai rencontré nombre de chrétiens qui, à cause de cela, ne font plus de choix. Et qui demandent pendant un an si c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. On attend, et on attend, et on attend, et il ne se passe strictement rien parce que Dieu ne répond pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsqu'on a un projet à cœur, ou lorsqu'on a une décision à prendre, la première des choses à faire, c'est quoi ? On la met au pied de Dieu. Dieu, j'ai envie de faire ça, ou j'ai à cœur de faire ceci, ou je vais certainement entamer ça, ou ceci, ou cela. Si c'est ta volonté, alors que ça se fasse, si ça ne se fait pas, tu fermes le chemin. Et puis on se met en route. On actionne les choses. On n'attend pas toujours. Dieu ne veut pas qu'on soit des petits-enfants en maternelle toute notre vie. Il veut qu'on fasse des choix. Et il se peut très bien que les choix que nous avons à cœur portent la vie. Vas-y. Et s'il ferme la porte, il ferme la porte. C'est tout. Donc ne tombons pas dans la peur de faire des choix. Ça sert à rien. La souffrance vient du fait que Dieu pointe du doigt une réalité de mon cœur. Quelle est la porte de sortie ? Comment Caïn aurait dû réagir ? Ben oui, c'est vrai, désolé Seigneur, je suis complètement jaloux. Expression, premier C, constat des faits, expression des émotions. Seigneur, je t'en veux, je trouve que tu préfères Abel que moi, je suis jaloux et j'ai un sentiment d'injustice. Donc, la première, c'est quoi ? C'est la repentance, encore une fois. Oui, j'avoue, je regarde les choses en face. Et oui, c'est ça. Attention, lorsqu'on fait de la repentance, le but, c'est de nous soulager, de nous libérer. Donc, s'il y a un sentiment de culpabilité qui perdure, c'est pas bon. Voilà. Et si la souffrance est le résultat d'un fait extérieur ? Là, c'est dur. C'est très dur. Il y a toujours l'importance de la repentance, ok ? Mais plus de pardonner, si ça vient d'une personne, et il faut pardonner cette personne sans nécessairement besoin de réconciliation. En Luc 17, je vous, s'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre pardonner et se réconcilier. Il faut toujours pardonner, c'est ce que Dieu nous dit. Pardonnez toujours aux personnes qui vous ont fait du mal. Mais si cette personne ne vous demande pas pardon, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier avec cette personne. Mais entre Dieu et vous, c'est ok, vous l'avez pardonné. C'est fini. Et ça, il faut vraiment le faire. Pourquoi ? Parce que vous allez traîner un poids et une lourdeur dans votre cœur qui est juste destructrice. Si vous dites à Dieu, ok, je pardonne cette personne, elle ne me demande pas pardon. Mais voilà, la réconciliation n'est pas obligatoire. Ça, c'est très important, sinon vous allez traîner un poids de culpabilité qui n'est pas bon. Et alors, vous pouvez aller voir sur le site de Rachel Dufour la lettre du pardon, qui est un superbe outil que moi-même j'ai appliqué dans ma vie, qui a pour but de rédiger des lettres pour se libérer du poids d'une personne qui nous a déçus et qui nous a fait mal et qui ne reconnaît pas le mal qu'elle nous a fait. Sinon, on va traîner des casseroles toute notre vie. Et ça va être difficile d'entrer dans les choses que le Seigneur a pour nous. Il faut accepter aussi que la souffrance, la source de la souffrance peut être le mal, le péché, la connaissance du bien et du mal. Il faut pouvoir le voir et discerner à ça, là, ça vient pas de Dieu, ça vient pas de moi, ça vient tout simplement du mal. Et il faut donc résister par la foi, la prière et l'espoir dans la promesse du Seigneur. Quel est cet espoir ? C'est que le mal connaîtra sa fin. Amen. Est-ce que le mal connaîtra sa fin ? Oui ! Et c'est notre espoir. L'Apocalypse, on ne doit pas en avoir peur, nous, hein ? On doit plutôt être content, très content. Ça se terminera. Pour terminer, je voudrais vous raconter deux témoignages. Parce que là, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que rien ne vaut le terrain. J'ai une amie qui s'appelle Sonia, qui il y a un an m'a dit, mais Ève, là, faut que tu m'expliques. Elle n'est pas chrétienne. Hein. Elle dit, si Dieu vraiment existe, pourquoi il a pris ma grande sœur? Pourquoi ma mère, la vie de ma mère a été détruite parce qu'elle a perdu sa fille? Hein, toi qui crois en Dieu, hein? Vas-y, explique-moi maintenant. Ok. Alors je dis, je ne peux pas répondre à ces questions si tu ne me racontes pas son histoire. Et je lui ai demandé autorisation pour vous en parler ce matin. Elle m'a dit ok. Elle dit, mais je ne veux pas venir sinon je vais pleurer. Ben, je dis, bah, si tu vas pleurer, c'est que tu as peut-être besoin d'entendre ce que je vais dire. Mais bon, elle n'est pas là. Ce n'est pas grave, on l'a bénie. Simplement, un jour, sa petite sœur jouait dehors, devant chez elle, et une personne l'a renversée. C'est une personne de son village, et cette personne est alcoolique. Et bien sûr, cette personne était alcoolisée ce jour-là. Bien, on va appliquer la mode CACA. Ok ? Si on analyse les faits, quelle est la source de ce mal ? C'est important qu'on puisse appliquer les choses, sinon ça ne sert à rien. La source du mal, on est en troisième position, ok ? Ça ne vient pas du choix des parents, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du mal. Le mal, il est où ? Il est... C'est pas l'homme, c'est l'addiction qui est dans cet homme. Toute sorte d'addiction va créer forcément une échelle du mal. Jusqu'à détruire la vie de cet homme encore. Parce qu'il a quand même renversé une petite fille qui est décédée. Ok ? Comment on va dépasser ? On va pardonner cet homme. Oh, aïe, aïe, c'est dur de dire ça. Mais oui. On va pardonner cet homme. On va pas se réconcilier avec lui. Hein. Sauf s'il demande pardon. Sauf si terrassé par ce qu'il a fait, viens à vos genoux et dis, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Mais s'il ne le fait pas, alors ça se passe entre vous et Dieu. Vous pouvez être en colère contre Dieu, de nous laisser encore dans la connaissance du bien et du mal. C'est vrai, mais un jour le mal s'arrêtera. Alors tenons bon et résistons. Nous sommes chrétiens et nous avons pour but de proclamer ce message-là et de répondre à toutes les questions des gens qui disent, mais pourquoi on m'a pris ma fille ? Si Dieu existe, pourquoi il m'a pris ma fille ? Nous devons avoir une réponse claire et précise, chacun d'entre nous. Sinon, qu'est-ce qui va en payer les pots ? C'est Dieu. Parce qu'on va se retirer de lui. Et à toute finale, qu'est-ce qui va en payer les pots ? Nous. Pourquoi ? Parce que être séparé de Dieu, c'est vivre l'enfer éternellement. Deuxième, et j'ai eu aussi l'autorisation de la femme. J'accompagne une femme qui a des 4 cancers en phase terminale. Et voilà, donc, on l'écoute beaucoup. On est dans la première phase. C'est constat des faits, expression des émotions. Je prie pour qu'on puisse à un moment donné... On est un peu dans le A. Ce qui fait qu'elle m'a dit, Ève, si j'ai eu 4 cancers, c'est à cause de la vie et des choix que j'ai menés avant. C'était une femme qui un peu marginale. Elle est tombée dans la drogue, elle est tombée dans l'alcool, elle a eu des unions avec des hommes qui l'ont battue. Voilà, donc une vie de déchéance et d'une succession de mauvais choix. Mais il y a toujours une porte de sortie. Et je lui ai donné cette porte de sortie. Elle est là, elle s'appelle Jésus. Demande-lui pardon et il te prendra avec lui. Vous voyez ? Si vous rencontrez une personne qui souffre, appliquez cette méthode. Regardez où elle en est. Est-ce qu'elle a besoin encore de crier ses émotions ? Ou est-ce qu'elle a besoin maintenant d'analyser les choses et de savoir d'où vient le mal ? Elle a besoin d'avoir cette réponse-là. Après, elle comprend, elle accepte, et elle passe à l'action. Soit elle demande pardon. Le pardon sera toujours important. Et elle s'en remet et elle accepte que le mal agit toujours sur cette terre. Bien, j'espère que vraiment ce thème de la souffrance va pouvoir vous aider à être armé et à pouvoir marcher par l'esprit même si vous souffrez. Pour terminer, en conclusion, j'aimerais finir avec Jacques et Romain qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous pouvons être vainqueurs de la souffrance, vraiment. Nous pouvons l'apprivoiser. Nous pouvons tenir le mal entre nos mains. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a donné toute autorité. Et il nous a donné la capacité de supporter. Et la dernière chose, Romains 5, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Nous sommes fiers de nos détresses. Le jour où on pourra dire ça, on aura vraiment avancé dans notre cœur qui ressemble à Jésus. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, elle ne nous trompe pas. Lorsque nous gardons l'espoir dans nos cœurs, vous ne vous trompez pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La boucle est bouclée. On finit par quoi ? Par l'amour de Dieu. Dieu est amour et c'est pour ça qu'il nous a créés. Et Dieu est amour et il nous aidera à traverser la souffrance. Soyez tous bénis et passez un bon dimanche. Merci, merci, c'est lui, hein. Voilà, Didier va revenir. Petite annonce, dimanche prochain, il y a la GAP.